Des mots pour le dire.
Une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les ondes du réseau FM+, 91 MHz sur l'agglomération montpellierienne, 103.1 sur Nîmes. Des mots pour le dire. Quelqu'un l'autre jour me disait, mais c'est des mots qui parfois engendrent des mots, M-A-U-X, parce que ça rappe et en même temps, il dit, ça me réjouit parce que ça m'énerve, moi-même je suis pas d'accord, etc. Mais en même temps, ça élague mon esprit. Ça ravive chez moi l'envie de débattre, et c'est pour cela d'ailleurs que nous partageons ces temps, des mots pour le dire. Donc c'est des mots tirés du livre, du premier livre qui est paru, et maintenant on a abordé le deuxième livre, des théologies buissonnières de Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane.
Donc des mots que vous nous donnez, vous nous offrez jour après jour pour découvrir, ma foi, ce qu'il y a à côté des chemins de traverse, ces chemins de traverse qui nous permettent d'approfondir notre connaissance, de nous irriter aussi, parce que je sais que quelques auditeurs s'irritent, mais l'enjeu ici n'est pas de l'irritation gratuite, ce n'est pas mais plutôt une sorte de poil à gratter pour ne pas s'assoupir sur nos acquis, ne pas s'assoupir une fois pour toutes, et peut-être redécouvrir la nouveauté des mots, redécouvrir la dynamique théologique et aussi la culture. Comme diraient d'ailleurs les Écritures, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et on redécouvre des vérités très anciennes et qui nous paraissent tellement nouvelles, n'est-ce pas? D'ailleurs, un des mots dans lequel vous allez nous aventurer aujourd'hui, nous allons rentrer de plein fouet, la pomme à la main, au paradis.
Dans le paradis. Alors, ce mot paradis vient du persan, Peridesa, qui a été d'abord hébraïsé en Pardès, et ensuite il a été grécisé en Paradeisos, et il veut dire tout simplement « jardin ». Par exemple, on lit en Genèse 2:8, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin dans Paradeison, à Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Donc, ce lieu appelé Éden, qui veut dire « délice », situé du côté de l'Orient, peut indiquer à ceux qui ont une vision littérale de ce texte une situation quelque part en Babylonie, à l'ouest du golfe Persique, en tout cas à l'est de la Palestine. Voilà, parce que ce que l'on voit après, c'est que deux des quatre fleuves qui sont mentionnés dans la suite du passage, Genèse 2:10 et suivant, verset suivant, seraient le Tigre et l'Euphrate. Donc certains remarquent, pour en tirer argument en sa faveur, que la Genèse situe l'origine de la race humaine au lieu même où la science archéologique moderne situe l'origine de la civilisation. Cependant, il me semble abusif d'assimiler les deux notions. En effet, si la civilisation est peut-être née en Mésopotamie, tout le monde s'accorde aujourd'hui à penser que la race humaine est née en Afrique. Alors je crois qu'il vaut mieux interpréter ces textes non point de façon littérale, c'est-à-dire de trouver un lieu géographique à la surface de la terre où se serait situé le paradis, mais de façon symbolique. Le jardin d'Éden, c'est ce fameux jardin des délices, dont Jérôme Bosch, par exemple, a fait le tableau. Il est d'abord le séjour des dieux, et l'arbre de vie qui s'y trouve nourrit de ses fruits les immortels, comme dans la mythologie grecque, l'ambroisie était le nectar qui rendait les dieux grecs immortels. Alors, la Bible, on le sait, proscrit toute représentation matérielle de Dieu. Bon, Exode 2:4, etc., tu ne feras pas d'image taillée me représentant. Mais elle présente souvent Dieu de façon anthropomorphique. En effet, on lit dans la Genèse qu'il se promène dans son jardin à la brise du soir. C'est joli ça comme expression, à la brise du soir, Genèse 3:8. Je dirais alors que Dieu prend le frais, comme on le dit chez nous. Et bien sûr, n'importe quel jardinier qui constaterait qu'on a dévalisé ses pommiers, vous avez parlé de pommes et d'ouen, hein, son espalier en tout cas, comprendra la colère de Dieu après le vol du fruit de l'arbre qui a été planté par ses soins. Bon, là je viens de faire un petit clin d'œil voltairien, mais bien entendu, le sens est beaucoup plus profond. Alors, l'évocation du jardin comme demeure initiale de l'homme, qui lui a été donné par Dieu, renvoie au mythe antique de l'âge d'or. Ensuite, la félicité première a été perdue, suite à ce qu'on a l'habitude de nommer la première faute, mais on le verra dans l'émission, je ne suis pas tellement d'accord avec ce mot de faute. Quoi qu'il en soit, il est passé justement à la postérité, ce mot. Voyez encore au XIXe siècle le roman de Zola, La faute de l'abbé Mouret, qui se passe dans un jardin précisément appelé Paradou. C'est le mot provençal pour dire le paradis. Donc le paradis a été perdu, hein, comme il se voit dans le titre du célèbre poème de Milton, Paradise Lost, le paradis perdu, qui est paru en 1667. Bien entendu, une fois que l'on a perdu cette félicité première, eh bien, s'est installé le désir d'y revenir, hein. Et cette nostalgie veut dire en grec maladie du retour, algeia nostou, maladie du retour, a nourri en judaïsme toute l'espérance prophétique. Les prophètes juifs nous disent en substance qu'aujourd'hui les péchés de l'homme l'éloignent de Dieu, et donc cette terre que nous connaissons est un lieu d'exil. Mais plus tard, nous disent-ils, Dieu restaurera l'Éden primitif. Donc cette espérance pour un futur dernier, que l'on appelle aussi la fin des temps, fait du paradis une promesse eschatologique, c'est-à-dire qui a rapport aux dernières fins, ta eschata. Et dans ce paradis, toute la négativité de l'existence disparaîtra, et les bêtes sauvages, par exemple, ne seront plus sauvages. Alors là, je vais vous lire un beau passage tiré d'Isaïe, Isaïe 11, verset 6-9. Le voici, le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits auront un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre du cobra, et l'enfant, sevré, mettra sa main dans la caverne de la vipère. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La dernière image est très belle, hein, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est un très beau passage qui me fascine toujours. Alors bien sûr, Edouane, on peut trouver angélique et naïve cette évocation qui est irénique. Irénique, ça veut dire qui a rapport à la paix, à Irénée en grec, d'où le prénom Irène, qui veut dire la pacifique. On peut dire que, peut-être que si le loup couchera avec l'agneau, cette nuit-là, l'agneau ne dormira pas beaucoup. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, Edouane?
Ce qui n'est pas possible à l'homme est possible peut-être à Dieu.
Ah, voilà.
De faire en
voilà.
Sorte.
Oui, 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 oui.
Il y a des impossibilités, mais j'ai souvenir d'un... d'ailleurs, on en avait parlé une fois de ce lion, qui est une lionne qui avait adopté une gazelle. Et c'est elle têtait d'ailleurs la lionne, cette petite gazelle. Alors, ça paraît effectivement irénique, jusqu'au moment où le lion vint la manger. Et il y a un drame à ce moment-là. Vraiment, il n'y a pas besoin de mots pour se rendre compte qu'il y a un drame qui se joue. Il y a quelque chose qui sort de la logique et que la nature, dans sa brutalité ou sa sauvagerie, vient rétablir. Voilà. Donc on se dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas? Parce que la nature nous a montré, je veux dire, des possibilités, de choses un peu inattendues.
Absolument. Donc, à l'homme, rien n'est possible, et à Dieu, tout est possible. Ce que vous aviez dit, Toteo Panta Dunata. C'est l'évangéliste qui nous a dit, toutes choses sont possibles à Dieu. Bon, je pense qu'on peut toujours rêver de ce paradis où le loup couchera avec l'agneau, hein. Bon, il ne faut pas désespérer les cœurs, hein. Par exemple, à la fin d'Oncle Vania de Tchekhov, il est dit « Un jour, nous nous reposerons ». Eh bien, c'est l'aspiration à un paradis du repos, hein. Rien n'est plus émouvant que cela, même si toute la réalité de nos vies le dément. Et je dirais qu'après tout, ce qui n'a pas de sens, c'est-à-dire une espérance folle, a peut-être un sens supérieur à ce qui a du sens, hein, la loi de la nature dont vous parliez, Redouane. Mais aussi, il me semble que dans ce retour, justement, à une vie pacifiée, il y a un beau rêve de retour à une vie symbiotique, au sens littéral du mot, qui est celui de vivre ensemble, hein, syn en grec avec, et bios, c'est la vie, vivre ensemble. Cet état de vie symbiotique, c'est-à-dire de proximité des animaux, hein, le cobra, la vipère, hein, par exemple, touché par l'enfant, c'est peut-être celui que nous avons connu autrefois quand nous étions enfants et que connaît encore le primitif. Le primitif est plongé dans ce que Lévi Brull, l'anthropologue Lévi Brull, appelait la participation mystique, avant que la conscience ne le sépare de la nature, dans ce que le psychologue Jung appelait le processus d'individuation. Et cette séparation est peut-être l'essentiel de ce qu'on appelle la faute originelle. J'y viens, là, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas cette expression de faute, hein. Je pense qu'il vaut mieux parler de séparation, et il me semble que le chapitre 3 de la Genèse doit être compris comme cela. Il faut y voir non pas le châtiment d'une désobéissance, mais le malheur d'une séparation. Ce livre prend acte justement de ce malheur. Alors j'ai parlé du primitif, eh bien, en plus du primitif, cette séparation peut être conjurée, alors figurez-vous, par exemple, par l'enfant, hein, on le voit chez Isaïe, un petit enfant les conduira, aussi par la femme, qui est beaucoup plus proche de la vie que l'homme, et aussi, pourquoi pas, par le fou. Par exemple, Séraphine de Senlis, sur laquelle a été fait un film récemment, hein, elle peignait souvent, c'était une domestique inculte, mais qui, un beau jour, conseillée par son ange gardien, s'est mise à peindre des représentations du paradis, avec un déluge floral, luxuriant, etc. Et elle a retrouvé la magie d'un état initial où nous n'étions pas séparés des animaux et des végétaux. Je traiterai la semaine prochaine le mot « animal », hein. Mais déjà, par anticipation, on peut voir que il y eut un temps où, comme le disent les contes, les bêtes parlaient. C'était au temps où les bêtes parlaient. Alors, il y avait un état que j'appellerais hypallatique ou d'échange, je vais m'expliquer sur ce mot hypallatique, hein, où le monde n'était pas tenu à distance, comme dans la vie d'adulte, mais nous entourait en intime proximité. Je cite ici un vers de Vera Renn et le frôlement vert des branches attentives. Alors, l'hypallage, c'est le fait de transférer l'adjectif ici « vert », qui normalement doit s'appliquer à branches, ce sont les branches qui sont vertes, à frôlement, hein, d'où frôlement vert. Quant à attentive, cela nous montre que les branches sont personnifiées.
Je suis celle que tu trouves quand tu ne cherches plus. Tu es celle que je veux. Je suis celle que tu peux avoir sans même jamais avoir voulu. Nous sommes qui? Nous sommes une femme. Un homme, deux arbres nus dans le verger. paradis, retrouvé ou perdu. Nous sommes qui? Nous sommes un dragon, une lionne, enlacés nus dans le jardin du paradis. Italien. Et ton enfer, ton élève et ton maître, je suis ta source et ton désert, ton mal et ton bien-être, je suis la lumière et ton ombre, la rose et le chardon, unique. Parmi le nombre, le remède et le poison, je suis la nuit qui doute, l'aube qui rassure. Je suis la clé de voûte, l'eau de la nuit. Tu es l'étoile. Moi, l'errant qui ne la perd jamais de vue. Je suis le vent et toi la voile tendue.
Vous êtes toujours à l'écoute du réseau FM+, des mots pour le dire, avec Michel Théron. Donc Michel, on s'est quitté avant cette pause musicale, qui nous permet aussi de voir comment les chanteurs tels que Jacques Higelin visitent ces paradis. Et lui, on peut appeler ça même des vergers. Hein.
Ah oui, oui, oui. Mais il faudrait quand même pas situer le paradis en Normandie, hein, puisque le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas du tout une pomme. Hein. Au Moyen-Orient, il n'y a pas de pommier. Hein. Donc c'est un fruit. C'est simplement par une espèce d'homonymie bizarre entre le malum, qui veut dire mal en latin, et malus, qui veut dire le pommier. Hein. On a fait cette...
Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on dérive, justement, je veux dire, les mythes, comment se créent les mythes, comme par exemple une des grandes marques d'ordinateur, le Mac, Macintosh, sa symbolique, c'est la pomme croquée, qu'on n'a jamais croqué la pomme. Absolument c'est pas. Uniquement Jacques Chirac qui a invité la population française à manger des pommes, paraît-il, à un moment donné.
Ah oui, 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 oui. Alors, je viens de citer ce magnifique passage d'Isaïe qui me fascine toujours, je le répète, et il me semble qu'on peut voir les animaux que Isaïe mentionne non pas comme des êtres extérieurs à nous, mais comme nos propres pulsions intérieures. Et alors, l'état de réconciliation paradisiaque dont parle le prophète serait un état, comme disent les gnostiques, d'unification intérieure. Comme on le voit par exemple dans l'évangile selon Thomas. Alors lorsqu'Ésaïe écrit « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte », c'est Dieu qui parle bien sûr, eh bien ce qui est en question ce n'est pas l'abolition de la loi naturelle. Hélas, la nature c'est un meurtre éternel. La nature est cruellement et définitivement autophage, elle se dévore elle-même. Le monde est un spectacle où le meurtre fourmille et la création se dévore en famille, disait Victor Hugo. Hein. Et ce côté autophage de la nature désolait par exemple un homme comme Darwin. Parce que Darwin disait, il n'y a aucune pitié, aucune compassion dans la nature. La loi de la nature est celle d'une cruauté définitive. Donc, il ne se fera plus aucun dommage, n'abolit pas la loi naturelle, mais vise alors, d'un point de vue symbolique, une pacification intérieure. Pacification qu'effectivement peut réaliser à nouveau l'enfant intérieur que nous portons en nous, ce fameux puer aeternus, l'enfant éternel de toutes les spiritualités et sagesses du monde. Donc lorsque Isaïe nous présente justement les animaux réconciliés, il dit « et un petit enfant les conduira ». Eh bien cet enfant fait, si vous voulez, notre salut. Je pense alors à la sur ce petit enfant les conduira, à la légende du joueur de flûte de Hamelin, le joueur de flûte des ratiseurs, vous la connaissez,
Redouane.
Donc il avait voulu débarrasser une ville justement des rats, et jouant de la flûte, les rats ont suivi et se sont noyés. Mais comme ce joueur de flûte n'a pas été payé, il s'est vengé en attirant les petits enfants de la ville ensuite, de façon à ce qu'ils se noient. Donc ne prenons que la première partie de l'épisode, conduire les rats, c'est-à-dire nos monstres intérieurs, hors de la ville, de façon qu'ils se noient. Donc j'ai développé cette idée justement de l'enfant salvateur dans mon livre La Source Intérieure, qui est paru chez Goliath l'année dernière. Alors, en se penchant un peu plus précisément sur la notion de paradis, il me semble qu'en monde juif au moins, on peut distinguer deux paradis. D'abord, le fameux paradis eschatologique, où nous espérons tous entrer après le dernier jugement, à la fin des temps par conséquent. Et puis un deuxième paradis, qui est un paradis, je dirais presque provisoire, où séjournent les justes avant le jugement lui-même. Et c'est ce séjour temporaire que les Juifs nomment aussi le Saint d'Abraham. Par exemple, celui où est admis le pauvre Lazare dans la parabole célèbre de Luc 16, 22. Il va dans le Saint d'Abraham. Et c'est aussi le séjour que promet Jésus au bon larron. En Luc 23, 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Seulement, et je l'ai déjà signalé, il y a ici la possibilité de deux ponctuations. On peut lire, je te le dis en vérité, deux points, aujourd'hui tu seras dans le paradis, et on peut lire aussi, je te le dis en vérité aujourd'hui, deux points, tu seras avec moi dans le paradis. C'est seulement dans le cas de la première ponctuation que s'impose la vision du paradis comme région intermédiaire, séjour provisoire des justes dans l'attente du jugement dernier. Dans la seconde ponctuation, je te le dis en vérité aujourd'hui, deux points, tu seras avec moi dans le paradis eschatologique, c'est-à-dire celui qui est promis pour la fin des temps, et sinon certain, du moins possible. Alors on sait, et c'est une remarque que l'on a déjà faite dans le courant de ces émissions, que les manuscrits anciens ne sont pas ponctués et que les mots n'y sont même pas séparés. Donc on peut comprendre des deux façons. Alors le premier paradis, le Saint d'Abraham, ce séjour provisoire, ce serait en quelque sorte une division du Sheol. En hébreu, le Sheol c'est le séjour des morts, en grec c'est Hadès, dans cette partie du Sheol vont les âmes des justes en attendant le jugement dernier, Alors, on sait depuis le credo des apôtres, le symbole des apôtres, que Jésus est descendu aux enfers. Cette descente aux enfers est développée dans la deuxième partie de l'évangile apocryphe de Nicodème. Et l'épître aux Éphésiens le dit aussi. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Alors, peut-être que Jésus serait descendu, non pas dans l'enfer lui-même, mais dans une région intermédiaire, celle-là même qui est réservée aux justes. Et car on avait toujours à l'époque sous les yeux la phrase du psaume, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Psaume 16, 10. Donc, on a vu dans cette parole de David, la parole du psalmiste, une préfiguration du séjour de Jésus sous la terre. C'est ce qu'on lit dans les Actes. Actes 2, 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, c'est-à-dire David, le psalmiste, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Alors, là-dessus se sont appuyés des hérétiques que l'on a appelés incorruptibles ou incorrupticoles, et qui ont prétendu que le corps de Jésus n'avait pas vraiment goûté de la mort, donc il n'était pas réellement affronté à la mort. Mais aussi, alors là tout est compliqué, parce qu'il y a eu des hérétiques symétriques, ou inverses, les hérétiques appelés infernaux, qui ont prétendu que si le texte dit que Jésus a été préservé des douleurs de l'enfer, acte 2:24, c'est qu'il les avait connues. En tout cas, une preuve que Jésus n'aurait pas été visiter le grand paradis eschatologique d'abord, entre le vendredi saint et sa résurrection à Pâques, c'est la parole que Jésus prononce dans l'évangile de Jean, en Jean 20:17, à l'adresse de Marie-Madeleine. « Ne me touche pas, ou plutôt ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Donc, la montée au paradis définitif, pourrait-on dire, se serait produite postérieurement, le jour, bien entendu, de l'ascension. Alors, il y aurait donc deux paradis. Un paradis provisoire, momentané, qui serait une attente du véritable paradis. Alors, je me demande, moi, si l'invention du purgatoire, par exemple, chez les chrétiens, au XIIe siècle, il y a un très beau livre de Jacques Le Goff qui porte ce titre, « L'invention du purgatoire », ne serait pas une démarcation, justement, de ce paradis provisoire. Je pense qu'en monde protestant, Redouane, le purgatoire n'est pas reçu, il me semble.
Non, le purgatoire, c'est antichambres qui permettent de se racheter, parce que le purgatoire, ça veut pas dire qu'on est complètement condamné. Donc on peut toujours avoir une partie de secours, et beaucoup de chrétiens à une époque donnée, comme aujourd'hui encore, se sentent sous le poids du péché, et donc veulent se sortir de ce purgatoire, et ma foi, on peut faire commerce avec ce désir de se sortir de ce purgatoire.
Oui, de toutes les façons, c'est tardif, c'est une invention médiévale. Elle a peut-être donné, je crois, plus de confiance à l'homme chrétien, qui se disait, si je n'ai pas été assez bon pour aller directement au paradis, eh ben, au moins, j'irai faire un petit séjour momentané dans le purgatoire, on a eu moins peur d'aller rôtir en enfer, directement, me semble-t-il. Alors, de toutes les façons, le paradis eschatologique, celui-là, celui qui concerne la fin des temps, a son lieu, non pas ici-bas, mais dans le ciel. C'est là que Dieu réside, comme l'indique la doxologie habituelle. Doxologie, ça veut dire chant de gloire, doxa la gloire. Cette doxologie dit « gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». La Vulgate dit « Gloria in altissimis Deo ». Et c'est dans ce plus haut des cieux, donc dans ce vrai paradis, que Paul, par exemple, fut ravi dans son extase mystique. Alors, je lis le texte de Paul, c'est 2e épître aux Colossiens. Deuxième épître aux Corinthiens, 12:2-4. « Je connais un homme en Christ, c'est lui, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Donc vous voyez, l'étrangeté de la situation est marquée ici par ce que l'on appelle en rhétorique l'énalage pronominal. J'ai pas tout à l'heure parlé de l'hypallage, qui est un transfert d'adjectif. Ici, l'énalage, c'est un changement dans l'énonciation. Je, tu, il, etc. Cet homme, Paul parle de lui comme d'un autre que lui, à la troisième personne. Vous voyez, cela veut dire qu'il est différent, justement, de ce qu'il est maintenant. Et s'il y a une théologie du paradis, elle ne peut être que de nature négative, ou comme l'on dit, apophatique. L'apophase, c'est la dénégation, puisque Paul nous dit, il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. En quelque sorte, nous parlons du paradis, Redouane, mais nous avons tort de le faire, puisque c'est un ineffable. Vous voyez.
Oui, mais il en va de la liberté. de conscience, je dirais. Et c'est là, c'est toute l'étrangeté dans les relations qu'on peut avoir avec l'autre monde ou avec la relation avec Dieu. C'est comment persister à dire que l'homme est libre de choisir ou pas si on lui démontre l'existence de Dieu. Moi, j'aime bien justement qu'on ne puisse pas démontrer cette existence parce que, comme on dit, puisque c'était le jour de la femme cette semaine, il y a tout le temps, j'aime être aimé pour ce que je suis et non pas pour mon corps. On pourrait dire Dieu peut aussi nous renvoyer cette image-là, être aimé pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'on pourrait gagner.
Voilà, donc on ne peut pas en faire une représentation matérielle, grossièrement matérielle. Donc la seule attitude véritable serait la suspension du discours. Donc j'ai parlé d'apophase, on pourrait parler aussi de l'aposiopèse, c'est-à-dire on laisse le discours, siopane ça veut dire se taire hein, en grec, on laisse le discours en suspens, point de suspension. Dans paradis, point de suspension. Hein, voilà.
Tout à fait.
Alors on trouvera une magnifique illustration en tout cas du paradis céleste, hein, c'est-à-dire du paradis eschatologique, dans l'hymne de la liturgie des funérailles, in paradisum deducant te angeli, que les anges te conduisent au paradis. Et on écoutera à la fin de cette émission avec émotion ce passage qui est mis en musique à la fin du Requiem de Fauré, en songeant que même un agnostique comme Fauré, il était totalement agnostique, hein, peut faire preuve d'une grande profondeur spirituelle dans ce magnifique morceau. Alors le paradis ainsi cesse d'être un lieu où l'on séjourne, mais une destination post-mortem, c'est-à-dire pour après la mort, ce que marque d'ailleurs l'accusatif, eiston paradison en grec, hein, ou bien in paradisum en latin. L'accusatif marque le lieu vers lequel on se dirige, le lieu où l'on va, hein, la question quo en latin. S'il s'agissait au contraire de se promener dans le jardin, lieu où l'on est, question ubi en latin, on aurait par exemple en grec un datif et en latin un ablatif. Je me promène dans le jardin, mais je vais dans le paradis, alors là c'est une destination, d'où l'accusatif. Eh bien, malgré tout cela, maintenant, je vais défendre une autre vision du paradis. Alors, en effet, le paradis eschatologique, qui est très beau comme rêve, hein, comporte, et là Redouane vous me direz ce que vous en pensez, à mon sens des dangers, ou si l'on veut, des effets pervers. D'abord, il peut nous pousser à faire bon marché de cette vie-ci, puisqu'on peut toujours euphémiser les ratages de cette vie. De toute façon, on pense qu'un séjour bienheureux nous attend dans l'au-delà. Hein. Donc, après tout, si on rate sa vie, ce n'est pas grave. J'aime bien renverser les proverbes. On dit « toute médaille a son revers ». Eh bien, renversons. Tout revers a sa médaille. C'est-à-dire, tout échec de cette vie aura sa récompense dans le paradis eschatologique post-mortem. Et ça me semble dangereux. Premier point. Deuxième point, le paradis peut être fâcheusement instrumentalisé. En effet, on peut avoir une vision très littérale du paradis. Ce paradis va intégrer les fleuves de lait et de miel, Exode 3.17, Deutéronome 6.3, etc. Et cela est peut-être beau en tant que rêve. Vous avez raison, Redouane, de dire qu'il faut que cela reste flou. Hein. Mais si on prend littéralement, par exemple, toute promesse de terre promise, eh bien, cela peut avoir des conséquences problématiques dans l'histoire, comme toutes les fois où l'on mêle fâcheusement du sacré à ce qui aurait tout intérêt à rester profane. Par exemple, le conflit au Proche-Orient aujourd'hui serait sans doute différent si Israël ne voyait pas dans son pays une terre promise par Dieu. Vous voyez ? Donc moi je plaide ici pour une laïcisation des choses dans tout ce qui a une implication historique. Et le troisième point, c'est que il y a dans la promesse du paradis des passages très très agressifs. Par exemple, le pacifisme ne trouve pas son compte dans des formules comme celle que l'Esprit dit aux églises dans l'Apocalypse, Apocalypse 2, 7, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Vous voyez, alors, on sait que le Coran, par exemple, traite le paradis d'Allah avec une vision très terrestre et charnelle. On y connaît bien sûr l'immortalité, mais à la jouissance de l'immortalité, le Coran ajoute la jouissance des houris. Les houris, ce sont des belles femmes, alors je crois qu'il y a 60 ou 70 vierges. Hein. On voit cela dans la sourate 44, verset 51-55. La jouissance aussi des éphèbes, sourate 52, verset 17-24, etc.
Et je sais en chemin le danger dans un paradis, c'est de rencontrer un ange, et qu'il vous sourit. Simplement de terre, je m'émerveille.
Toujours à l'écoute du réseau FM+, des mots pour le dire avec Michel Théron avant cette pause qui nous rappelle des connaissances du passé au niveau sonore. Avant cette pause, vous avez décrit la manière dont le Coran parle de l'immortalité et des houris. C'est très machiste, hein, parce que c'est vrai, ce n'est pas les femmes qui vont jouir du plaisir charnel, mais ce plaisir charnel est destinée principalement à l'homme.
Oui, bien sûr.
Pourtant.
Et alors ces vierges en très grand nombre, 60 ou 70, je ne sais plus, lorsque l'homme, l'élu, donc, aura eu des relations avec elles, leur virginité se reconstituera, si on lit bien le texte du Coran. Quant aux éphèbes, hein, qui nous sont promis, bon, dans la réalité, le Coran est farouchement homophobe, comme nous disons aujourd'hui. Il proscrit totalement l'homosexualité. Mais dans le paradis d'Allah, il y aura des éphèbes. Et tout le monde sait ce que c'est, les éphèbes. L'éphèbe est souvent efféminé. Alors, c'est une façon très, je dirais, grossière de voir le paradis. Vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
Extrêmement grossière.
C'est un miroir. On se regarde. Ce n'est pas l'au-delà. Et j'aime bien le mot au-delà. Ça va par-delà nos propres représentations, c'est ce monde inconnu, mais c'est toujours cette envie de reconstruire un idéal auquel l'homme aspire, en fait, mais qui ne sont pas les desseins de Dieu.
Absolument. Et alors, quand on fait miroiter, avec beaucoup de détails avenants, attirants de cette sorte, le paradis, eh bien, ce paradis peut être la récompense, alors, des fous de Dieu, hein. Par exemple, le terroriste kamikaze, la bombe humaine, espère avoir dans le paradis le salaire circonstancié de leur acte. Ils vont les voir, ces vierges, ces éphèbes, etc. Vous voyez, ils seront recouverts de brocarts, de jolis tissus en brocart, etc. Donc, c'est très très dangereux. Voilà une instrumentalisation gravissime du paradis. Que répondre, disait Voltaire, à celui qui s'imagine gagner le ciel en vous égorgeant? Elle va très loin, cette phrase. Hein. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Il s'imagine, celui qui vous égorge, s'imagine qu'il va directement au paradis. Hein.
Peut-être tout le problème se trouve dans l'expression « gagner son paradis ». Oui. Est-ce qu'on gagne son paradis? Parce que gagner son paradis, on pourrait dire que à un moment donné, cette représentation que le croyant, s'inspirant des Écritures, se trompe, parce qu'en fait, il s'enracine une nouvelle fois dans le paganisme. C'est faire d'un sacrifice l'achat de la bienveillance des dieux. On n'est pas dans ce cas-là. C'est-à-dire la justice que j'aime, c'est tout le passage d'Isaïe dont vous disiez tout à l'heure. C'est quoi ? Se rendre favorable à Dieu, c'est pratiquer la justice, pratiquer la bienveillance, pratiquer, oui, voilà, la relation avec l'autre et non pas le meurtre de l'autre.
Oui, absolument. Alors, s'agissant de ces bombes humaines, figurez-vous, il me semble qu'il y a un cas de kamikaze ou dans la Bible juive elle-même. C'est le cas de Samson. Vous vous souvenez, Redouane ? Samson, eh bien, il fait s'écrouler le temple des Philistins. Et les Philistins sont morts, lui aussi. Donc c'est une sorte de kamikaze, Samson, hein, d'une certaine façon. Bien sûr, il est aveuglé par les Philistins, etc. Mais c'est pour se venger. Eh bien, il fait mourir tout le monde, lui y compris, voyez. Donc, voilà. Donc, ces effets pervers, ces instrumentalisations du paradis excatologique me font que je le considère maintenant avec beaucoup de suspicion. Et maintenant, pour terminer l'émission, je vais plaider pour un paradis hic et nunc, ici et maintenant. Alors, bien sûr, Voltaire, que je viens de citer, écrit dans un poème qui s'appelle « Le mondain », « Le paradis terrestre est où je suis ». Bien entendu, je ne suis pas d'accord avec cette vision qui est, comment dire, trop épicurienne dans le mauvais sens du mot, hein, de Voltaire. Hein. Mais je plaide quand même pour un paradis que nous pourrions connaître dans notre vie si nous découvrons en nous notre part d'éternité. Alors, il est vrai, comme le dit Proust dans « Le temps retrouvé », que les seuls vrais paradis sont ceux que l'on a perdus. Cependant, ces paradis, ils existent quand même en nous, hein, car derrière notre moi habituel, qui est un moi labile, un moi qui s'effiloche, hein, soumis à l'entropie inévitable du temps, nous avons parlé déjà dans l'émission précédente sur le temps, hein, avec le temps tout s'évanouit, différé, hein, col tempo, hein, avec le temps on vieillit, etc. Hein. Donc, ça c'est vrai, ça c'est une vérité. Mais malgré tout, il y a en nous, au milieu de cette dégradation, un noyau dur. Et ce noyau dur se souvient de sa vraie nature. Ainsi, lisons l'évangile selon Thomas, Logion 84, verset 4-7. « Les jours où vous voyez à qui vous ressemblez, vous vous réjouissez. Mais lorsque vous verrez vos modèles, qui au commencement étaient en vous, qui ne meurt ni ne se manifeste, qu'est-ce que vous supporterez ? » Le mot pour modèle dans la version copte, c'est un mot tiré du grec, hein, donc c'est du grec copte, hein, c'est icône, icône. Alors l'icône vise non point notre ressemblance éphémère, qui flatterait notre narcissisme, qui relève de ce que l'on appelle en grec le phainoménon, c'est-à-dire l'apparence, mais l'icône vise notre vraie image substantielle ou essentielle. Elle relève de ce qu'on appelle en grec l'ousia, ousia, hein, l'essence. Hein. Et alors, il y a en nous un souvenir toujours présent de certains moments où tout nous a été dévoilé en concordance avec notre attente et notre nature les plus secrètes et les plus profondes. Nous avons connu tel moment. Et Dieu lui-même, comme disait le sage antique Agathon, hein, ne peut pas faire que ce qui a été n'ait pas été. Donc il y a en nous une part d'éternité, j'en ai déjà parlé déjà à la fin de l'émission sur le temps et l'éternité, qui fait que nous pouvons goûter le paradis. Dès maintenant, l'évangile de Thomas dit très bien, au Logion 19, « Heureux celui qui était déjà avant qu'il n'existe, oui, qui était avant qu'il ne tombe dans l'existence, c'est-à-dire dans l'exil ontologique. Hein. Vous possédez en effet cinq arbres dans le paradis, voilà l'évangile selon Thomas, qui ne bougent ni été ni hiver, et leurs feuilles ne se perdent pas. Celui qui les reconnaîtra ne goûtera pas de la mort. » Alors, vous voyez, les feuilles des arbres paradisiaques sont persistantes, hein, non pas caduques. Eh bien, comme les feuilles de ces cinq arbres du paradis, notre essence est persistante en nous. Et donc, le paradis qui est à notre portée dès maintenant, il est à l'image de Dieu même, hein, Dieu, dit l'épître de Jacques, dit très, d'une façon très belle ici, Jacques 1, 17, en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous voyez, ni changement, ni ombre de variation. Donc j'aime beaucoup cette définition de Dieu. Eh bien, nous sommes à l'image de Dieu. Le serpent de la Genèse avait dit à Ève, vous serez comme des dieux, dans la Vulgate, Eritis sicut Dei. Alors, même si cette vision que je défends est blasphématoire pour certains, parce qu'effectivement, elle refuse la transcendance de Dieu, c'est une vision gnostique ou gnosticisante, c'est sûr, mais je dirais que cette vision se trouve déjà dans un évangile reçu, un évangile canonique pourtant, qui est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean nous dit que la vie éternelle, c'est-à-dire la vie du paradis, peut être déjà là. La vie éternelle, ce n'est pas, comme on le croit souvent, ce qui nous attend après la mort, mais elle est en nous. Voici, je répète ce passage de Jean que j'ai déjà cité dans une émission précédente, Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, en grec ekei. Si c'était il l'aura, il y aurait ekei. Donc il a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez ? Alors, toute vision eschatologique disparaît, et aussi, corrélativement, toutes les exploitations fâcheuses qu'on peut faire de la vision eschatologique du paradis, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez ? Alors, il revient, bien sûr, à la gnose, et de ce point de vue, l'évangile de Jean est bien gnostique. Je me demande, on l'a reçu dans le canon, mais et on a eu, je ne sais pas, comment dire, une grande hardiesse de le recevoir, parce qu'il y a plein de très gnostiques, ou au moins pré-gnostiques. Normalement, la gnose, c'est le second siècle, et je dirais qu'il y a un pré-gnosticisme, déjà, à l'extrême fin du premier siècle, et donc il revient à la gnose d'avoir opéré ce changement de perspective, et cette recherche d'une autre voie, de passer de la vision eschatologique à la vision ici et maintenant. Peut-être parce qu'on a constaté que ce que laissait espérer le climat d'imminence eschatologique du début, le temps est accompli, le royaume est proche, dans l'évangile de Marc, etc., cela ne s'est pas produit. Il s'est passé des dizaines d'années et rien n'est arrivé. Alors, au tournant entre le 1er et le 2e siècle, on a transféré l'essentiel, non pas à venir, mais on a abandonné le climat d'imminence eschatologique du début parce qu'il décevait, vu la non-survenue de ce qu'il nous promettait, et alors on a transféré le paradis ailleurs, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes. Le royaume est à l'intérieur de vous, comme le dit l'évangile selon Thomas, et le paradis, le royaume s'étend sur la terre et les hommes ne le voient pas, dit aussi l'évangile selon Thomas. Mais il me semble que ce choix, ou cette hérésie gnostique, mérite mieux que le statut d'un choix par défaut. J'ai dit, faute de voir venir le vrai paradis, et tout de suite, eh bien, on s'est dit, on va le mettre ailleurs. Non, cette hérésie, s'il y en a une, ce choix, hérésie, ça veut dire choix, simplement, donc je ne le prends pas du tout dans un sens péjoratif. Ça mérite mieux que le choix, que le statut d'un choix par défaut. Le choix du paradis comme quelque chose de donné, hic et nunc, est plus à hauteur d'homme, et sans doute ce choix est moins néfaste dans l'application de cette notion. Donc nous entendrons en fin d'émission le beau passage in paradisum du Requiem de Forêt. Mais comme je viens de parler, alors
voilà, de l'évangile de Thomas, voilà. Et avant de nous quitter, donc voilà. Donner rendez-vous aux auditeurs, voilà. Qui seraient intéressés de vous rencontrer, puisque vous allez au centre 665, donc mardi prochain, aborder, c'est la quatrième fois d'ailleurs, donc l'évangile de Thomas.
L'évangile selon Thomas, c'est le mardi 17 mars, donc mardi prochain à 18h30. Hein, à 18h30, et là, je serai heureux, si certains auditeurs veulent me rencontrer, de les voir à cette occasion.
Aussi, voilà, donc hein. Au 665 route de Mende à Montpellier, donc à 18h30, Évangile de Thomas avec Michel Théron. Merci Michel, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous nous proposez?
Animal.
Ah oui, c'est vrai, c'est ce que nous disiez tout à l'heure, donc on reviendra sur notre animalité ou notre humanité. Merci beaucoup, merci à vous, on vous donne rendez-vous donc mardi prochain pour ceux qui auront la possibilité de nous rejoindre au centre rencontre à Montpellier.
Mardi 17
à 18h30, sinon aux autres, mêmes ondes, même radio et même heure. Au revoir.
Au revoir.